J'ai parlé dans cette histoire des compositrices déjà de quelques Anglaises, et notamment de la personnalité haute en couleur de Dame Ethel Smith. La musicienne que je vais vous faire écouter aujourd'hui est aux antipodes, timide, réservée, d'une grande discrétion. Rebecca Clarke est née en 1886, près de Londres, dans une famille aisée, d'une mère allemande, charmante, bonne pianiste amateur, et d'un père américain, cruel et tyrannique, exécrable violoncelliste amateur. Elle rentre à la Royal Academy of Music, où elle suit des leçons de violon et d'harmonie. Son père la retire de l'école lorsque son professeur d'harmonie veut l'épouser. Elle a alors 16 ans. Chez elle, elle compose quelques petites pièces. Elle pense que c'est inhabituel pour une femme, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Son père envoie deux de ses mélodies à Sir Charles Stanford, le professeur de composition de l'époque, qu'il accepte comme élève au Royal College of Music.
Shy one, shy one, shy one of my heart. She moves in the firelight, pensively apart. She carries in the dishes and lays them in a row to an oil in the water with her. The candles and lights the curtained room, shine in the doorway and shine in the gloom, and shine as a rabbit, helpful and shy to an oil in the water. With her would I fly.
C'est Stanford qui conseille à Rebecca Clarke de passer à l'alto pour jouer dans l'orchestre des élèves, de manière à se trouver au milieu du son, pour comprendre de l'intérieur comment la musique est faite. Elle travaille alors avec Lionel Tertis, le grand altiste anglais, qui a créé la plupart des œuvres pour alto du début du XXe siècle. Après une ultime dispute avec son père, elle quitte la maison familiale pour entreprendre à Londres une carrière d'altiste professionnelle. Bonne musicienne, elle se trouve de plus en plus de jobs qui lui permettent de ne jamais de sa vie demander un seul penny à son père. En 1912, elle est recrutée sur concours dans l'orchestre du Queen's Hall, dirigé par Sir Henry Wood, qui a décidé d'engager 6 femmes, 4 violonistes et 2 altistes. Les musiciens de l'orchestre ne sont d'abord pas emballés du tout, c'est un euphémisme. Et souvent, Rebecca aurait aimé disparaître derrière son pupitre. Mais elle est très grande et ne passe pas inaperçue, malgré sa modestie. C'est cette modestie, justement, qui l'incite à prendre un pseudonyme pour l'une de ses pièces, dans un concert où elle joue déjà 2 autres pièces sous son vrai nom. Après avoir lu la liste des rivières anglaises, elle choisit donc Trent comme patronyme et comme prénom Anthony, qui sonne bien. La presse remarque que dans la jeune école anglaise, un compositeur mériterait d'être mieux connu, Anthony Trent. Lorsqu'on demande à Rebecca des détails sur ce nouveau venu, elle rougit et tout le monde pense alors qu'il y a de la romance dans l'air.
Thank you.
En 1919, un an après l'apparition remarquée d'Anthony Trent sur la scène musicale anglaise, Rebecca Clarke décide de participer au concours initié par la mécène américaine Elizabeth Sprague Coolidge pour l'écriture d'une sonate pour alto. Les participants sont anonymes et la sonate de Rebecca arrive en finale, en compétition avec une autre œuvre. Le jury de 6 membres est partagé, 3 contre 3. Et c'est finalement Mrs. Coolidge qui choisit l'autre œuvre, qui se révélera être d'Ernest Bloch, dont le style est reconnaissable. Lorsque l'enveloppe contenant le nom de Rebecca est ouverte, tout le monde est surpris que ce soit l'œuvre d'une femme. La jeune femme n'a pas gagné le concours, mais elle lui doit une certaine renommée. On joue sa sonate et des rumeurs circulent. Rebecca Clarke serait un pseudonyme, peut-être même celui d'Ernest Bloch. Le catalogue de Rebecca Clarke comporte une centaine d'œuvres, mais beaucoup ne sont pas éditées. Son style varie entre l'impressionnisme, le post-romantisme et le néoclassicisme. La composition était pour elle la chose la plus excitante, ou presque, au monde. Elle a raconté que lorsqu'elle composait une œuvre, c'était la première chose à laquelle elle pensait le matin au réveil et la dernière chose à laquelle elle pensait en se couchant le soir. Elle l'avait à l'esprit tout le temps, cela lui demandait beaucoup de vitalité et si trop d'autres pensées ou événements venaient interférer, elle ne pouvait plus y arriver. Comme bien d'autres compositrices, elle doutait et elle n'avait pas la conscience de sa valeur. Elle avait l'impression que chaque pièce qu'elle composait était la dernière qu'elle arriverait à écrire. Cela lui semblait toujours accidentel, en quelque sorte. Et quand la composition n'a plus été la pensée maîtresse de sa vie, alors elle a composé de moins en moins. Elle le regrettait sur la fin de sa vie, parce qu'elle pensait qu'elle avait en elle la possibilité de composer quelque chose de vraiment bien si elle avait continué. Et nous pouvons le regretter aussi, particulièrement en écoutant son trio, composé lui aussi pour un concours de Mrs. Coolidge en 1921. Rebecca Clarke avait une passion pour la musique de chambre qu'elle tenait pour la plus haute forme d'art. « Il y a quelque chose dans le fait de jouer dans un quatuor, écrivait-elle, qui fait qu'on se sent de manière subtile devenir une partie de l'atmosphère de la musique et donne une vue de l'intérieur qu'on ne peut avoir autrement. » Elle a joué dans un quatuor féminin pendant quelques années avec les sœurs Darani, violoniste hongroise. C'est pour Jelly, la plus jeune, que Ravel a composé son Tzigane et Ethel Smith son concerto pour violon et corps. Et avec Wilhelmina Sugia, violoncelliste portugaise, première femme de Pablo Casals, avec qui elle a d'ailleurs eu aussi l'occasion de jouer. Rebecca a ensuite fait partie du English Ensemble, quatuor avec piano, féminin lui aussi. À partir de la Deuxième Guerre, elle s'est installée aux États-Unis, ayant la double nationalité, et s'est mariée à 58 ans avec le pianiste et compositeur James Friskin, un ancien camarade du Royal College, professeur à la Juilliard School à New York. Aussi modeste, elle ne mettait en avant ni ses compositions, ni elle-même. Et lorsqu'elle fut devenue Mrs. James Friskin, plus personne ne se rappelait qu'elle avait été Rebecca Clark. Mais en 1976, alors qu'elle avait 90 ans, un producteur de radio de New York est venu l'interviewer sur Myra Hess, pianiste avec qui elle avait fait ses études à Londres. Elle mentionne alors une de ses œuvres à propos d'un concert donné avec Myra Hess en 1925, entièrement dédié à sa musique. Le producteur, étonné et intéressé, décide de lui consacrer une émission pour son anniversaire. À cette occasion, il l'interviewe sur elle-même, il fait venir des musiciens et on joue sa sonate pour alto, son trio et quelques mélodies. Après cette émission, des demandes lui viennent pour jouer sa musique, on la réédite, on l'enregistre. C'est ce qu'elle appelait son mini-revival, dont elle était très touchée. Ce matin, dans l'histoire des compositrices, vous avez entendu quelques œuvres de Rebecca Clark, Shy One par Anthony Rolfe Johnson et Graham Johnson, Morpheus pour alto et piano par Paul Coletti et Leslie Howard, la sonate pour alto par Hartmut Lindemann et Ben Martin, le trio par les sœurs Bekova et la passacaille sur un air anglais ancien par Catherine Wilmers et Simon Marlowe. Cette émission a été réalisée par Pierre-André Fautrier avec Jean-François Néolier et Françoise Monteil.